programme d'activités adaptées, tout pour votre tranquillité d'esprit. Le Petit Quartier, c'est la sécurité, le confort et en prime, du plaisir. Contactez-nous.
Vendredi 9 mai, ici Stephen Zurbinski. Voici les nouvelles. La situation dans certaines urgences de la Montérégie serait catastrophique. Le Journal de Montréal écrit aujourd'hui que des urgences sont tellement débordées que des paramédics sont forcés de rester pendant des heures au chevet des patients pendant que d'autres malades s'empilent dans les corridors. Alors, la situation serait particulièrement difficile aux urgences de Châteauguay et de Salaberry de Valleyfield où les taux d'occupation des deux urgences ont dépassé les 200% depuis le début de la semaine. Des cloches d'appel ont même été ajoutées dans les corridors en raison de la nouvelle réalité. Le journal ajoute que mercredi, il y a deux jours, donc, un total de 7 ambulances, soit 14 paramédics, ont dû rester pendant des heures au chevet de patients à l'hôpital Anna-Laberge à Châteauguay par manque de civières. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a défendu le projet de loi 106 ce matin sur nos ondes. Celui-ci vise, rappelons-le, à revoir notamment le mode de rémunération des médecins. Des négociations sont en cours avec les deux fédérations et le ministre assume le dépôt en parallèle de son projet de loi.
Parce que la loi de la RAMQ ne permet pas de rémunérer les médecins à... par exemple, avec un supplément collectif. Donc, d'avoir des honoraires qui sont payés à une collectivité plutôt qu'à un médecin. Donc, techniquement, j'ai besoin d'un projet de loi. Puis, je pense que ça simplifie en même temps le cadre de la négociation qui est à suivre.
Le pape Léon XIV a célébré cette matinée sa toute première messe en la chapelle Sixtine du Vatican. Le souverain pontife a dit regretter le recul de la foi au bénéfice notamment de l'argent et du pouvoir. Sur nos ondes, le journaliste indépendant Bernard Bédarida, se trouvant sur place, a résumé les activités dans les prochains jours, au cours des prochains jours.
Dimanche, il prononcera depuis la fenêtre du palais apostolique son premier Regina Caeli, c'est-à-dire cette bénédiction qui s'appelle Regina Caeli au mois de mai, l'Angélus. Et lundi matin, il recevra toute la presse accréditée au Vatican. Ça va être une série de rendez-vous qui nous permettront de mieux comprendre de quelle pâte est fait cet homme.
Et même s'il est américain, le nouveau pape Léon XIV, faudra s'y faire, ne risque pas d'être le porte-voix du président Donald Trump au Vatican lors de sa vie de cardinal. Rappelons que Robert Francis Prévost a souvent critiqué les positions de l'administration Trump, notamment en ce qui concerne son traitement des migrants. Selon la professeure au département de sciences des religions de l'UQAM, Catherine Foisy, Léon XIV ne se pliera pas aux bonnes volontés de Donald Trump.
Je pense que c'est un homme qui est certainement fin, habile, négociateur, diplomate, travaille avec d'autres cardinaux. Le cardinal Parolin, le numéro 2 du Vatican, ne sera pas loin. Et donc, il va trouver les voies de passage, de contournement pour passer ses messages à l'administration américaine.
L'ancien ministre du Parti libéral du Québec, Lawrence Cannon, donnerait son appui à Charles Milliard. Selon le chroniqueur politique Dimitri Soudas, l'ancien député fédéral de Pontiac voit en ce candidat à la chefferie du PLQ un digne héritier de Jean Lesage et de Robert Bourassa, rien de moins. Rappelons que le prochain chef du parti doit être choisi le 14 juin prochain lors du congrès du parti. En terminant, attention, Montréal qui va procéder à son test annuel des sirènes d'alerte à la population aujourd'hui entre 8h30 et midi. Ces sirènes d'alerte ont pour but d'aviser les personnes se trouvant à l'extérieur de se mettre rapidement à l'abri à l'intérieur en entrant dans le bâtiment le plus proche. 9 usines possédant une sirène d'alerte coordonnera donc un test de sirène d'alerte ce vendredi. Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
Le 10 mai prochain à 20h, rendez-vous à l'église Saint-Georges pour le concert « Douceur et clap » de la Société lyrique de Beauce qui vous fera voyager avec des œuvres de Fauré, Schubert et Brahms, suivi d'un hommage musical à vos films préférés « Forrest Gump »,« Le Parrain »,« Harry Potter » et plus encore. Avec 45 choristes, sous la direction d'Hélène Ouellette, préparez-vous à une soirée inoubliable. Billets en vente aux amants de la scène, 30$ pour les adultes, 10$ enfants de 12 ans et moins en admission générale. Une présentation de Garaga et les créativités Beauceronne.
Le Murta ce midi, vous avez l'occasion à ce beau vendredi, entre guillemets, mais d'aller dîner par contre dans une ambiance extraordinaire au restaurant Le Murta sur la 1ère Avenue. Je vous en parle depuis le début de la semaine et j'espère que vous êtes tentés au moins d'aller l'essayer. Après, si ça vous plaît pas, ben c'est à vous les oreilles, vous en ferez bien, vous y retournerez plus. Mais pas mal convaincu que ça va vous plaire. Surtout la formule suivante, servie en 10 minutes où on vous amène pas de facture. Alors, vous optez pour le menu midi, on s'entend. Hein? Faut pas aller avec un plat, demander au chef de nous préparer un plat qui était pas prévu à l'horaire. Mais voici les choix quand même. L'ossobuco de bœuf, c'est accompagné d'une purée de pommes de terre et une réduction de tomates. Les penne aux crevettes que j'ai essayé plus tôt cette semaine, c'est servi avec une sauce au beurre et sur les crevettes, on te met un coulis de mayonnaise chipotlée. Là. Oh, que c'était bon! Et on vous offre également le poulet au curry. Et il y a la surprise du chef, le choix du chef qui change régulièrement. Ça va avec son inspiration. Voici le concept. Vous arrivez du mardi au vendredi entre 11h30 et 13h. Vous choisissez votre table, vous vous installez, la serveuse vient vous voir, on vous amène l'eau, le potage, et le chrono est commencé, et en moins de 10 minutes, vous allez être servi. Si ça prend plus de 10 minutes pour avoir votre assiette, ben, c'est plate, mais le propriétaire va perdre une facture, parce qu'il vous emmènera pas de facture. Mais malheureusement pour nous, quand on est allé plus tôt mercredi, on a eu une facture.
Mais c'est la normalité de la chose.
C'est la normalité de la chose, mais on testait le concept.
Ben oui. Ça n'a pas été payant pour vous autres.
Non, mais ça a été très, très bon par contre. Alors, le Murta, puis les jeudis, vendredis, je vous invite peut-être à réserver. C'est peut-être une bonne idée. 221-69-92 pour aller dîner rapidement. Puis ça, c'est important. On ne vous met pas dehors après 10 minutes, soit dit en passant. Là. On vous sert rapidement, mais si vous avez un repas pour discuter, on vous garde en place. Il n'y a pas de souci.
Bonjour la Beauce avec Gaston Cloutier, une présentation dont Bon Marché Bernard. En mai, courez la chance de gagner votre achat King Sécurité. Jusqu'au 30 mai, toutes les personnes ayant acheté une paire de chaussures King Sécurité courent la chance de se faire rembourser intégralement leur facture. Et c'est pas tout, on fera un deuxième tirage pour offrir une carte cadeau de 100$. Pour être bien équipé et bien chaussé, il faut aller au Bon Arrêt, au Bon Marché Bernard, 125-35 Première Avenue, Saint-Georges.
Des nouvelles fraîches, des perspectives claires, une station. Cool FM. Bonjour la Beauce.
J'ai vécu hier et je vais vivre pour le restant probablement de mon existence une première. Pour la première fois de ma vie, j'ai un pape qui est plus jeune que moi. Je vais voir avec mon prochain invité si c'est également le cas pour lui, l'abbé Alain Pouliot. Bonjour.
Bonjour, Gaston. Comment allez-vous ce matin?
Ça va très bien. Moi, mon premier pape que j'ai connu, c'est Pie XII. Ce qui fait que tous les papes, de tous les papes que j'ai connus, le pape actuel, Léon XIV, est plus jeune que moi.
Oui. Ben, dans mon cas, il est à peine plus vieux que moi de quelques mois. Il a mon âge, alors. Moi, je me suis rendu compte de ça hier, mais j'ai dit, il a mon âge. Eh bien, alors, je crois bien que j'ai encore plusieurs années de travail devant moi.
Absolument. Est-ce que la nomination de Robert Francis Prévost, 69 ans, constitue pour vous une grande surprise?
Ben, c'est surprenant parce que au fond, on ne l'avait pas vu venir. En tout cas, moi, il n'était pas dans la liste de ceux qu'on pouvait penser. Quoique, je n'avais pas vraiment une liste longue parce que d'expérience pour avoir vu participer, à avoir été présent à tous ces autres événements, il ne faut pas se faire d'idées trop préconçues. Mm-hmm. Cependant, dès les premiers mots, lorsqu'ils ont nommé son nom, Léon XIV, moi, il m'est tout de suite venu spontanément l'idée Léon XIII, et parce que pour moi, dans l'histoire de l'Église, le pape Léon XIII a été un des grands papes réformateurs de la fin du 19e siècle. Donc, donc déjà, ça annonçait, en choisissant ce nom-là, au niveau de la doctrine sociale, au niveau de la pensée face aux exclus, face aux droits des travailleurs, Léon XIII avait fait beaucoup, donc il se situe déjà dans cette ligne-là. Alors pour moi, c'est une bonne nouvelle, et je ne suis pas vraiment surpris que les cardinaux aient choisi un candidat qui se situe dans la ligne de ce que le pape François avait commencé. Je pense qu'on est, vraiment dans cette optique-là. Et ça, pour moi, ben, je suis pas étonné que les cardinaux, finalement, aient pris cette décision dans ce sens.
Qu'est-ce qu'il y avait... parce que mon jeune collaborateur, ce matin, disait, mais comment ils s'y prennent pour choisir leur nom, les papes? Et ils s'inspirent, justement, de papes qui les ont marqués. C'était le cas, j'imagine, pour Robert-Francis Prévost, que Léon XIII l'avait marqué. En quoi Léon XIII aurait-il pu être si marquant?
Et pourquoi ne pas garder Robert ou Francis comme prénom, tout simplement, de pape?
Il y a une histoire reliée à la tradition chrétienne. De toute façon, le nom qu'il choisit, est déjà l'idée d'un programme. On peut penser que l'influence de Léon XIII a pu déjà interpeller grandement le nouveau pape. Et de toute façon, le changement de nom, pour ma part, je connais pas le secret, je suis pas dans ce secret-là. Mais on peut penser que les cardinaux, dans la possibilité qu'ils ont d'être élus, doivent y penser d'avance. Ils improvisent pas. Et d'ailleurs, dans le cas du cardinal Prévost, on voit, du fait que son discours était préparé, qu'il y avait déjà une idée derrière la tête. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Donc, en s'inspirant de ce personnage-là, lui... Son nom, aux yeux de Dieu, c'est Pierre. Il est le successeur de Pierre. Alors, et on s'insère dans l'histoire. On s'insère dans une tradition, de sorte que on est dans une étape de grande transition et dans le monde. On est dans un changement d'époque, avait dit le pape François. Et dans ce changement d'époque, il faut pas perdre de vue d'où on vient. Il faut pas perdre de vue notre histoire. Il faut pas perdre de vue ceux qui ont été les artisans des grands changements. Et on sait, à la fin du 19e siècle, comment le pape Léon XIII, à travers une encyclique qui s'appelait Rerum Novarum, a déjà donné l'élan pour une transformation dans l'Église, pour, par exemple, favoriser le droit des travailleurs au niveau des syndicats, prendre le droit à la propriété privée. Donc, c'est dans cette tradition-là que le pape choisit de s'insérer. Alors, est-ce qu'il va être influencé? Ça, c'est une autre histoire. Mais au moins, déjà, il y a une indication programmatique, d'une certaine manière, de qui il veut être pour l'Église aujourd'hui.
Il y a plusieurs médias qui se posaient la question, en voyant son nom à consonance francophone, est-ce qu'il y aurait de la parenté au Québec? Non, il n'y a pas de parenté au Québec, mais cependant, il y a un lien avec le Québec, parce que c'est lui qui a remplacé quand même, à la demande du pape François, Mgr Ouellet.
Vous avez raison, effectivement, il a pris le relais du cardinal Ouellet à la congrégation, comme préfet de la congrégation des évêques. C'est lui qui, depuis 2 ans, a procédé à la nomination de tous les nouveaux évêques, dont il a probablement procédé à la nomination de Mgr Londonio, que nous avons ici comme nouvel évêque auxiliaire à Québec. Il a probablement procédé à la nomination de Mgr Jean Tailleur, qui vient tout juste d'être nommé nouvel évêque auxiliaire à Québec. Donc, oui, effectivement, il a une parenté, je dirais, spirituelle avec nous. Et il y a gros à parier que il n'est pas loin de Mgr du cardinal Lacroix, parce que ayant travaillé en Amérique du Sud, au Pérou, la proximité, évidemment, aussi, comme il vient des États-Unis et que le cardinal Lacroix a grandi aux États-Unis, donc il y a toute cette proximité qui fait que j'ai la certitude, je n'ai pas pu parler au cardinal, mais je suis convaincu qu'il est très, très heureux de cette nomination.
Et il y a quand même quelque chose de surprenant là-dedans. Ça ne faisait que 2 ans qu'il avait été nommé cardinal. Est-ce que c'est quelque chose de commun qu'une si courte période comme cardinal puisse vous permettre d'accéder à la papauté? Je pense pas avoir vu ça dans l'histoire des papes là, récents dans le monde.
Évidemment, sa création comme cardinal est récente, mais quand on regarde sa feuille de route en tant que religieux, Il a été quand même dans le passé. D'abord, il a été en Amérique du Sud, donc il était très certainement déjà connu du pape François. Ensuite, comme prieur général de la communauté des Augustins dont il a fait partie, il a une feuille de route comme responsable, comme gestionnaire, comme administrateur apostolique d'un diocèse. Il était très, très bien connu du pape François et, au fond, les nominations qu'il a vécues ont été comme une espèce de